universel. La suite, c'est bien sûr Appel sur l'actualité avec vous, Juan Gomez.
À tout à l'heure. Merci Aurélien de Vernois.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Nous lancerons le débat sur la course à la Maison-Blanche aux États-Unis. C'était hier soir, vous le savez, le premier grand oral, le premier duel télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump. Alors, il y a eu beaucoup d'attaques. Les échanges ont souvent été musclés. Les deux candidats ont finalement passé plus de temps à se critiquer qu'à proposer véritablement des idées. Donald Trump a notamment accusé sa rivale de ne pas avoir l'énergie, l'endurance pour être présidente. Hillary Clinton lui a reproché de vivre dans un monde à part et d'être raciste. En tout cas, il reste encore 6 semaines de campagne électorale. Les derniers sondages donnent certes Hillary Clinton et Donald Trump au coude à coude. Il faut dire que le candidat républicain a fait une percée dans les intentions de vote ces dernières semaines. L'avance de l'ex-secrétaire d'État s'est donc évaporée au fil des jours. Va-t-elle renverser la tendance ? Signalons tout de même que les premières analyses la donnent gagnante du débat d'hier soir. Alors dites-nous, lequel des deux candidat vous semble aujourd'hui le plus convaincant? Quel regard portez-vous justement sur la campagne électorale américaine? Est-ce qu'elle vous intéresse ou pas du tout? On a envie de vous entendre évidemment sur cette question ce matin. Vous nous rejoignez à Paris, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Je lirai quelques commentaires tout au long du débat. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, ce sont vos questions à la rédaction des RFI pour mieux comprendre l'actualité. On va parler de la Grande Muraille de Chine pour commencer cette émission. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour, c'est Juan Gomez.
Vous nous appelez de où?
Bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Oui, oui. La Chine a lancé une campagne de protection de la Grande Muraille de Chine. Quelles sont les causes de la dégradation de la Grande Muraille de Chine? Quelles sont les mesures prises par l'État chinois pour la protéger?
La Grande Muraille de Chine, c'est vrai qu'elle se dégrade d'année en année. Alors il faut dire que certaines des fortifications ont tout de même été construites au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Juan, bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous, vous êtes la correspondante permanente d'RFI à Pékin. La Grande Muraille est donc en danger. On dit même qu'à certains endroits, elle a carrément disparu. Alors que se passe-t-il ?
Alors les Chinois et les touristes étrangers l'aiment tout simplement trop. Depuis plus de 2000 ans, les fortifications militaires font bien face aux envahisseurs barbares, mais ils ont du mal aujourd'hui à résister aux conquérants des temps modernes. 16 millions de visiteurs se ruent chaque année sur la Grande Muraille à Badaling, par exemple. C'est le tronçon le plus proche de Pékin. Ce samedi, lors de la fête nationale, les tours de garde et contreforts seront encore noirs de monde. Chacun veut bien sûr admirer un petit bout de cette œuvre monumentale. Rajoutons à cette exploitation excessive par l'homme, le vent, la pluie ou encore des constructions d'autoroutes, et vous arrivez à ce constat alarmant. En effet, la Grande Muraille est en danger.
Oui, la Grande Muraille qui est donc victime de son succès par les millions de touristes qui s'y rendent chaque année. Et en même temps, avec Schmitt, on a vu sur les réseaux sociaux des images surprenantes. On a vu des voleurs de pierres.
Oui, en effet, Juan, parmi toutes les raisons, c'est bien la plus surprenante. La muraille disparaît brique par brique, car certains villageois aux alentours volent les pierres pour construire, par exemple, leur maison, ou bien ils les vendent aux touristes. La brique s'achète aujourd'hui à 30 yuan, soit 4 euros. Alors, l'Administration nationale du patrimoine culturel a bien tiré la sonnette d'alarme cet été. Un tiers des 6700 kilomètres de muraille érigé notamment sous la dynastie Ming entre le 14e et le 17e siècle, a déjà disparu et seuls 10% seraient encore en bon état.
10% des 6200 kilomètres. Alors les autorités ont décidé de réagir, Philippe de Ouagadougou nous le disait à l'instant, et les autorités ont décidé même de lancer un appel aux dons.
Oui, mais ce ne sera peut-être pas l'État chinois qui sauvera la Grande Muraille, mais plutôt les citoyens eux-mêmes. Chacun peut d'ailleurs y contribuer via une donation par Internet. La Fondation pour la protection du patrimoine vient de lancer en effet une opération de financement participatif sur la plateforme de Tencent. C'est l'un des géants de l'Internet chinois. Depuis le début du mois, un peu plus de 71 000 internautes ont déjà donné près de 120 000 euros, mais on est donc encore loin de l'objectif, récolter 1 500 000 euros d'ici à la fin novembre. C'est de l'argent qui sera destiné à restaurer notamment une section de 500 mètres à Zifengko, c'est dans le nord-est du pays. Autre mesure de protection, si vous visitez la muraille et vous y voyez des voileurs de briques, eh bien vous pouvez appeler un numéro de téléphone d'urgence et informer les autorités de toute dégradation criminelle. Être prise en flagrant délit coûte d'ailleurs assez cher. L'amende peut s'élever à plus de 600 euros.
Alors il y a donc cet appel aux dons. Les citoyens sont invités à sauver financièrement la muraille de Chine. Et puis il y a aussi des mesures de restauration qui sont directement financées par l'État ou encore par les gouvernements locaux.
Oui, à coup de millions d'ailleurs, mais bien sûr, ce mois-ci, des photos prises sur l'une des plus belles parties de la Grande Muraille ont fait la base sur la toile. Une restauration très malheureuse, des photos qui montrent les vieilles pierres de Tiariko couvertes d'une épaisse couche de béton. Le département de la culture de la province du Liaoning a d'ailleurs dû avouer que la soi-disant consolidation de la Grande Muraille a abouti à quelque chose de vraiment laid. Une enquête a été ouverte pour trouver les coupables.
Ah oui, vraiment, là, c'est peu de le dire. Les images sont visibles sur les réseaux sociaux et c'est vrai que de nombreux Chinois n'ont pas caché leur colère. 8 kilomètres de cette grande muraille, colmatée avec du béton, disons clairement les choses, Heike Schmidt, c'est moche. Merci d'avoir été avec nous en direct de Pékin. Philippe à Ouagadougou, on a répondu à vos questions.
Oui, oui.
Eh bien, bonne journée à Ouaga, au Burkina Faso, où il est 8h17. Vos questions, 33 9 693 693 70. Bonjour Osni.
Bonjour Juan et bonjour aux auditeurs.
Vous nous appelez de Suisse, vous êtes à Lausanne.
Tout à fait.
On vous écoute, quelles sont vos questions?
Permettez-moi d'abord, Juan, de dire mon indignation par rapport à ce qui se passe au Gabon. Le portail internet Yahoo a confirmé le piratage de 500 millions de comptes de ses utilisateurs en précisant que les données bancaires ont été préservées. Que risquent les utilisateurs de Yahoo et sont-ils en droit de demander réparation? Et ma seconde préoccupation, ouais. Yahoo était-il obligé de communiquer dessus et qui se cache en réalité derrière ce piratage?
Ah, qui se cache derrière ce piratage? À qui profite le piratage? Voilà la vraie question, effectivement. Amaël Guiton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de cybercriminalité. Vous avez publié aux éditions Au Diable Vauvert, Hackers au cœur de la résistance numérique. Vous êtes par ailleurs journaliste à Libération. Alors effectivement, la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, Yahoo a reconnu que 500 millions de comptes d'utilisateurs avaient été piratés, précisant tout de même que ce n'est pas la première fois que Yahoo est la cible d'un piratage. Déjà, il y a 4 ans, des hackers avaient réussi à voler les mots de passe et les noms d'utilisateurs de plus de 450 000 comptes. Concrètement, en quelques mots, Amaël Guiton, qu'est-ce qui a été dérobé? Concrètement, qu'est-ce qui nous a été volé, nous, propriétaires de comptes Yahoo?
Alors, d'après ce que dit l'entreprise elle-même, il y avait dans le butin des pirates des noms, des dates de naissance, des adresses mail, des numéros de téléphone, des questions et réponses de sécurité. Vous savez, c'est celles qu'on vous pose, par exemple, quand vous avez perdu votre mot de passe, le nom de votre premier animal domestique ou le nom de jeune fille de votre mère. Ce qu'a précisé l'entreprise, et ça, c'est ce qui est relativement rassurant, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de données bancaires.
Mais on en est sûr,
Bah là, pour le coup, on n'a pas vraiment d'autre choix que de faire
croire.
Confiance à l'entreprise elle-même. Donc, pas de données bancaires et pas de mots de passe en clair. C'est-à-dire que les mots de passe qui ont été dérobés étaient chiffrés. La difficulté, c'est que même avec ces informations qui semblent pas extraordinairement sensibles à première vue, on peut quand même les utiliser et notamment pour en récupérer d'autres. Parce que le vrai souci, c'est que énormément d'utilisateurs d'abord utilisent des mots de passe très faibles, donc qui sont très difficiles à deviner. Ils utilisent souvent le même mot de passe pour beaucoup de services, C'est-à-dire que quand on l'a trouvé, par exemple, pour un compte Yahoo, on peut l'utiliser sur d'autres comptes. Et ils utilisent aussi, bien souvent, les mêmes questions et réponses de sécurité. C'est-à-dire qu'en ayant subtilisé ces informations à Yahoo, on peut, le cas échéant, les utiliser, là encore, hein, pour récupérer des données de ces mêmes utilisateurs, mais sur d'autres services. Donc, le vrai problème, c'est ça, c'est l'usage qui peut en être fait. Sachant qu'en plus, avoir ces éléments permet aussi d'affiner ce qu'on appelle le phishing, hein, le hameçonnage, ces fameux emails qu'on vous envoie pour se faire passer, je ne sais pas, pour votre banque ou en tout cas pour un tiers de confiance. On vous demande de cliquer sur un lien, on vous demande des informations personnelles et en fait, c'est un piratage.
Effectivement. Osni nous demandait à quoi peuvent prétendre aujourd'hui les utilisateurs. Est-ce qu'il y a une réparation de prévue? Le problème, si je ne m'abuse, Amaël Guiton, c'est que si l'on dispose d'une messagerie Yahoo, à l'heure actuelle, il est difficile de savoir si son compte a été piraté.
Alors, normalement, Yahoo est censé vous prévenir que vous avez été victime du piratage, donc c'est quand même un premier élément. Ils ont déjà commencé à envoyer des mails de notification aux utilisateurs dont les données ont été piratées. Après, la difficulté, c'est que pour obtenir réparation, il faut réussir à prouver que Yahoo a commis une faute. Donc, il y a effectivement déjà aux États-Unis une plainte d'un utilisateur qui veut les poursuivre pour négligence. Évidemment, l'objectif, c'est d'en faire une class action, un recours collectif. Encore faudra-t-il réussir à prouver que Yahoo a été négligent. Évidemment, c'est là-dessus que porte la vraie difficulté.
Qui peut se cacher derrière ce piratage ?
Ah, alors ça, c'est vraiment la question la plus difficile. Moi, je sais que je suis toujours d'une prudence de Sioux sur ces questions, c'est-à-dire que on ne le sait pas, on ne le saura pas avant longtemps, on ne le saura peut-être jamais, tout simplement parce que le principe même d'un piratage réussi, c'est qu'on efface ses traces, voire qu'on laisse des traces pour faire accuser quelqu'un d'autre. Ça, c'est une pratique assez récurrente, de laisser des faux indices. Donc, ce qu'on sait à l'heure actuelle, enfin, ce que dit l'entreprise et ce que disent les autorités américaines, c'est que vu l'ampleur du piratage, c'est très probablement...
Il y a eu une coupure de réseau. Probablement un groupe lié à un État. C'est en tout cas ce que précise Yahoo dans son communiqué.
Voilà, exactement. Un acteur lié à un État. On sait que le piratage commandité par des États est effectivement assez fréquent et que les attaques les plus graves et les plus profondes viennent souvent d'États. Après, quant à savoir lequel, là, on est sur de l'évaluation politique, mais en termes de preuves concrètes, c'est toujours extrêmement, extrêmement difficile à savoir.
Ouais. À suivre donc. En tout cas, on a bien retenu quelque chose, Amaël Guiton, en tant que spécialiste des questions de cybercriminalité. Nous devons régulièrement changer de mot de passe. Bonne journée à vous et merci à Osni qui nous appelait de Lausanne. On va parler de la politique au Bénin avec, vous allez le voir, un phénomène politique pour le moins surprenant. Bonjour, bonne aventure.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous nous appelez justement du Bénin. Vous êtes à Abomey-Calavi.
Oui, c'est bien ça.
On vous écoute.
Depuis le début du mois de septembre, nous assistons à une succession de destitutions de maires au Bénin. Après celui de Parakou, c'est le maire de Bomi qui est concerné.
Alors attendez, le réseau téléphone n'est pas très bon. Bonne aventure avec Abomey-Calavi. C'est vrai qu'on assiste depuis le début du mois à ce phénomène que je qualifiais moi-même de surprenant. Plusieurs maires ont été destitués par les conseils municipaux, notamment celui de Parakou, qui est tout de même la troisième ville du pays. Bonjour Delphine Bousquet.
Bonjour Juan et bonjour Bonaventure.
Alors à chaque fois, les raisons invoquées sont les mêmes. Les conseils municipaux dénoncent une gestion opaque et solitaire de la chose publique. Pourquoi autant de destitutions ?
Alors Juan, avant de répondre, il faut rappeler deux éléments de contexte. Déjà, la loi sur la décentralisation de 1999 permet de destituer le maire en cas de désaccord grave entre les élus. Ensuite, il y a un vote de défiance et puis le préfet prend acte. Et sur le plan politique, il faut rappeler que ce sont les FCBE, l'ancien parti au pouvoir, qui avaient remporté les municipales l'an dernier.
Ouais, alors pourquoi ça arrive maintenant et surtout en cascade ?
Eh ben, c'est pas réellement pour des questions de gestion ou par souci de développement de la commune, c'est plutôt une conjonction de facteurs politiques. D'abord, ça arrive dans des communes où le maire a été élu en 2015 avec une alliance de partis et donc une majorité instable, certains conseillers s'étaient pliés aux consignes du député de la circonscription ou du ministre originaire de la zone. Et maintenant qu'il n'y a plus ou moins de pression, eh bien, en quelque sorte, ils reprennent leur liberté et il y a une sorte d'effet d'imitation hein, entre ces communes. Ensuite, en écho à ce qui s'est passé au niveau national avec l'élection de Patrice Talon, il y a un réalignement des forces politiques au plan local. Et en ce qui concerne celles qui soutiennent le chef de l'État, en fait, la bagarre a déjà commencé. Si on prend le cas de Parakou, c'est quand même la troisième ville du Bénin, au nord. Il y a les FCBE, dont le maire destitué fait partie, les partisans du président, les partisans de deux autres ex-candidats à la présidentielle, Abdoulaye Diochané, qui est l'actuel ministre du Développement, et Sébastien Adjavon, un homme d'affaires richissime qui est arrivé troisième de cette présidentielle. Et donc, ces soutiens sont déjà en train de préparer le terrain pour la suite. Donc, il y a eu une alliance de certains d'entre eux pour faire tomber l'ancien maire. Et puis enfin, autre facteur, il y a aussi des conflits de personnes qui duraient depuis longtemps et qui ressortent à l'occasion de ce réajustement politique. Alors,
donc,
en tout cas,
cela...
ça ne va pas s'arrêter là.
Ouais, tout cela est donc bien stratégique. Ça ne va pas s'arrêter là, ça veut dire quoi ? Qu'il y aura d'autres destitutions dans les prochaines semaines, les prochains mois ?
Il y aura d'autres destitutions. Dans certaines communes, le processus est déjà lancé, c'est-à-dire que les conseillers ont demandé la réunion d'une session extraordinaire. Voilà, et puis il y a des rumeurs dans d'autres communes où ça pourrait le processus pourrait aussi être relancé.
Ouais,
donc cette pratique.
Oui.
Pardon, Juan, cette pratique a fait réagir la société civile, notamment l'organisation Social Watch. Dans un communiqué, elle dénonce un jeu et une guéguerre politicienne, les mots sont forts, et elle demande aux citoyens de participer aux conseils communaux ou municipaux afin de comprendre ce qui se passe dans leur commune. Et puis Social Watch demande à tous les Béninois d'arrêter la démarche si tant est que ces destitutions ne sont que des représailles post-élection attisées par les nouvelles autorités pour satisfaire des intérêts partisans. Là, je viens de citer le communiqué de Social Watch.
Ouais, on me dit que Bonaventure a une autre question à vous poser, Delphine Bousquet. Bonaventure.
Je voudrais savoir si de nouvelles élections pourront être organisées.
Ah, de nouvelles élections sont à prévoir, Delphine.
Alors non, Bonaventure, les électeurs ne vont pas retourner aux urnes. La loi est claire. Dans un délai de 15 jours après la destitution du maire, les conseillers se réunissent pour en élire un nouveau. Précision importante, il doit être choisi parmi les candidats de la liste majoritaire.
Merci Delphine Bousquet d'avoir été avec nous en direct de Cotonou. Bonne aventure, bonne journée à Alab Bomé Calavi. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter sur place vu le nombre de questions qui nous arrivent d'Abomé Calavi chaque semaine, notamment sur la page Facebook de l'émission. D'autres questions à la rédaction demain. Je vois en ce moment des questions qui nous arrivent sur cet accord de paix historique signé hier entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. On prendra le temps évidemment de répondre demain à toutes ces questions. On avait prévu également une question ce matin concernant la rentrée des classes en Turquie avec des milliers d'enseignants qui ont été limogés, des milliers d'enseignants victimes des purges après le coup d'État raté de juillet dernier. Là aussi on fera le point puisque notamment Saint-Marc qui nous appelle de Lomé au Togo souhaite avoir des précisions. Bref, le standard reste ouvert. Vous continuez à nous appeler. Toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. On va marquer une pause. On va retrouver la rédaction pour le point complet sur l'actualité. Et tout de suite après, nous vous donnerons la parole. Nous parlerons de la campagne électorale aux États-Unis. C'était hier soir le premier débat télévisé. Hillary Clinton, Donald Trump. Lequel des deux candidats vous semble aujourd'hui le plus convaincant ? Vos réactions sur Facebook. On a par exemple Saleh qui nous dit Trump, lui au moins n'est pas un corrompu du système. Alors c'est vrai qu'hier soir, le candidat républicain s'est encore présenté comme le candidat anti-système, comme l'homme anti-politique. Malela nous dit avoir suivi le débat. J'ai trouvé que Clinton était beaucoup plus convaincante, très calme et apportant plus de solutions que de problèmes par rapport à Trump. Tout ce que Trump a fait hier soir durant le débat, c'était d'accuser les autres. Et j'ai beaucoup aimé, nous dit cet auditeur, la petite phrase d'Hillary Clinton, Donald, vous vivez dans un monde à part. Alors ce qui était intéressant hier soir, c'est que tout au long du débat, effectivement, Hillary Clinton appelait son rival Donald, alors que Donald Trump, lui, appelait Hillary Clinton de Madame l'ex-secrétaire d'État. Bref, on en parle dans 10 minutes. Reste à l'écoute des RFI.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.